Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 21e épisode, je voudrais parler du sommet d'Anchorage.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Le vendredi 15 août s'est tenu un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la base Elmendorf Richardson, près d'Anchorage, en Alaska. Préparé en urgence à la suite d'une nouvelle visite de Steve Witkoff à Moscou, ce sommet a été l'objet d'une attention médiatique inouïe. Aux États-Unis, on évoquait la possibilité d'une grande avancée, alors qu'en Europe, on craignait surtout que Trump se fasse avoir par Poutine et que ce sommet signe une nouvelle défaite pour l'Ukraine et le front européen. Alors, au final, qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que les perceptions des deux côtés de l'Atlantique étaient très différentes. Trump a enregistré tellement de succès récemment avec sa politique de coercition fondée sur les menaces d'augmentation de droits de douane que la droite américaine, parce que la gauche américaine de toute façon ne l'entend pas en ce moment, la droite américaine avait espoir que Poutine plierait et que ça donnerait un succès diplomatique encore un à Trump. Quant aux Européens, ils craignaient que Trump cède, ou alors l'autre théorie que l'on entendait, c'est qu'il utilise le sommet comme un prétexte pour se désengager complètement du sujet ukrainien, parce qu'évidemment, il n'aime pas beaucoup les échecs. Finalement, on a un retour à la case départ, c'est-à-dire Trump qui se rallie plus ou moins à la position de Poutine. Ce sommet a été un échec, il restera dans l'histoire comme un nouveau coup d'esbrouffe de Poutine et une preuve flagrante de l'amateurisme de l'équipe rapprochée de Trump. N'oublions pas que la majorité des réunions sur les 3h ou 2h45 de discussion qui ont eu lieu, elles étaient sur le format qu'on appelle 3 à 3, c'est-à-dire on avait Trump, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, Steve Witkoff, qui est le copain de Trump, qui lui aussi vient du monde de l'immobilier, mais qui est la personne chargée de mission, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit avec Moscou. Et face à eux, on avait Vladimir Poutine, donc évidemment président depuis 25 ans, Sergueï Lavrov, je ne sais même plus depuis combien de temps il est ministre des Affaires étrangères, et Youri Ushakov, qui est l'ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis, donc qui connaît quand même bien le monde américain, et qui est, je crois officiellement, le conseiller spécial sur les relations extérieures. Enfin, bon, bilan, le format 3 à 3, on a un décalage d'expérience qui est complètement incroyable dans des sommets internationaux.
Donc, Poutine a joué Trump ?
Je pense que c'est une simplification de dire ça. Trump a sûrement senti que rien ne ferait jamais bouger Poutine assez rapidement. Trump est quelqu'un qui, comme on le sait, lit pas beaucoup et se fait des opinions très très vite sur les choses et sur les gens. Et comme c'est un pragmatique, il se dit maintenant que pour obtenir un résultat, il va devoir aller chercher les concessions du côté de Zelensky. C'est finalement aussi simple que ça. Après, il faut arrêter de faire le portrait de Poutine comme un très grand négociateur. Ce qu'il a fait, c'est juste suivre le playbook russe, qui n'a pas changé depuis plusieurs siècles d'ailleurs.
C'est-à-dire ?
Ne jamais rien lâcher, rien céder. Quand on lâche, soit c'est une fausse concession, qui n'en est pas une, soit c'est une concession qu'on ne respectera pas, c'est-à-dire qu'on trichera. Quand on est en position de force, faire des demandes maximalistes, renoncer à ce qui ne compte pas au dernier moment, et quand on est en position de faiblesse, figer la situation et surtout mentir, surtout et tout le temps.
Qu'avez-vous pensé du discours de Poutine ?
D'abord, son introduction a été intéressante. Il s'est étendu sur l'Alaska, le fait que les États-Unis et la Russie étaient voisins. Il a évoqué la Russie américaine, donc qui commence au XVIIIe siècle et se termine en 1867 avec la vente de l'Alaska par le tsar Alexandre II. Les églises orthodoxes, russes, etc. Ce qu'il expose avec cette longue introduction, en fait, c'est une vision impériale. Poutine ne nous cache pas son jeu, il n'en a pas besoin. C'est nous qui, dans le cas des Américains par ignorance, ou dans celui des Européens par aveuglement, refusons de le voir.
Qu'appelez-vous une vision impériale ?
En gros, on a trois visions du monde qui se juxtaposent et ne se comprennent pas. La vision européenne, c'est celle finalement de la période 1945 jusqu'à, on va dire, 2025. C'est-à-dire c'est un monde de règles, soi-disant justes, avec une délégation de beaucoup des pouvoirs aux institutions internationales. Et c'est une vision qui est relayée par l'école, les livres et évidemment tous les médias et les dirigeants européens. Or le problème, c'est que ce monde, il n'existe plus, ou alors il n'existe plus comme il existait il y a encore quelques années. Ensuite, vous avez l'approche de l'Amérique de Trump, c'est-à-dire une approche transactionnelle qui, contrairement à ce qu'on a entendu tellement depuis des années, n'est pas une anomalie dans l'histoire américaine. On pourrait presque dire que c'est la période 45 à 2025 qui est l'anomalie d'une certaine façon. En fait, Trump, c'est un retour à la politique étrangère américaine, semi-isolationniste, mais surtout intéressé avant tout par ses propres intérêts, qu'on peut dater à peu près de la fin de la guerre des sécessions jusqu'à la fin des années 30. Quant à la vision impériale russe, ce que vous demandiez, elle n'a pas changé depuis Pierre le Grand. La Russie, c'est un empire en constante mutation. Ce qui est à nous sera toujours à nous, ce qui était à nous nous reviendra, tout de suite dans le cas de l'Ukraine, plus tard dans celui de l'Alaska.
Vous pensez que Poutine a des visées sur l'Alaska ?
Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, il n'est pas stupide, c'est quelqu'un d'assez réaliste. Mais la Russie américaine, elle a existé bien plus longtemps que l'Alaska indépendant et encore plus longtemps que l'Alaska comme un État faisant partie des États-Unis. Hein, donc ça a duré pendant à peu près 2 siècles, la Russie américaine. Ça s'est étendu, ça est même descendu jusqu'au nord de la Californie. Et qui sait si elle n'existera pas un jour de nouveau. Certains nationalistes le demandent régulièrement en Russie, et à peu près un tiers des habitants de l'Alaska voudraient en fait voir leur État indépendant. Donc qui sait ? Évidemment, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ce que j'essaye de dire, c'est que c'est comme ça que pensent les Russes. Évidemment, ça n'a rien à voir avec notre façon de penser, où on a une tendance à voir le monde finalement un peu figé dans l'histoire, figé dans le présent. Mais les puissances impériales, comme la Russie, c'est pas comme ça qu'elles regardent les choses. Pour les Russes, leur pays est avant tout un état frontière, un état qui est toujours en mouvement, mais qui est toujours en mouvement expansionniste. Et toute période de reflux est vue comme, finalement, une douleur immense. Hein. C'est ce que dit Poutine quand il parle de la plus grande catastrophe du XXe siècle, en parlant de l'Union soviétique. Pourtant, il n'a pas véritablement de regret pour le communisme. Mais c'est quoi ? Ça veut dire tout simplement que la Russie impériale, dans son étendue maximale, eh bien, est d'un seul coup rabougrie en perdant les 14 républiques qui constituaient, avec la Russie, l'Union des républiques socialistes soviétiques.
Quels sont les messages du discours de Poutine ?
J'en vois 3. D'ailleurs, n'oublions pas que, de façon assez étonnante, le discours de Poutine, d'abord c'est Poutine qui commence la conférence de presse, c'est une des raisons, c'est pas très bien pour d'ailleurs, qui explique l'annulation du déjeuner qui était prévu, donc c'est évidemment la preuve que les choses se sont pas passées comme Trump voudrait essayer de nous le faire croire, même si sur la surface, il y avait finalement beaucoup, Poutine était quand même très souriant et Trump, ça allait à peu près. Donc Poutine, c'est lui qui commence le discours, et en plus, il fait un discours beaucoup plus long que Trump. Mais les messages, j'en vois 3. D'abord, il y avait un message d'apaisement, qui était que les États-Unis sont un ami, c'est pas l'ennemi, ce sont des voisins, l'Alaska et l'extrême-orient russe sont simplement séparés de quelques kilomètres à un endroit. L'Amérique et la Russie ont plein de choses en commun. Et si Trump voulait en fait oublier l'Europe et l'Ukraine qui finalement ne présentent pas d'intérêt, les opportunités économiques, énergétiques, Poutine parle notamment de la coopération arctique, qui est un très gros sujet pour les 20 prochaines années, et les possibilités de coopération sont finalement sans limite. N'oublions pas, pour revenir un tout petit peu en arrière, que Poutine a surjoué sa main il y a quelques mois, d'où la mission d'apaisement. S'il avait vraiment été un bon négociateur, comme certains Européens se plaisent souvent à le dire, le résultat aurait très bien pu, la partie aurait très bien pu être jouée il y a déjà quelques mois, avec un résultat absolument catastrophique. En effet, si on s'en souvient, en janvier et février, Trump, il commence l'année comme un éléphant dans un magasin proportionnel, il est finalement prêt à tout lâcher, par une certaine admiration pour Poutine, mais surtout aussi parce qu'il déteste Zelensky et que, franchement, il se moque de l'Ukraine. Et puis en plus, il veut tellement s'afficher en faux ou plutôt en décalage par rapport à Biden qu'il accuse d'avoir donné le chiffre qui mentionne 350 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui est d'ailleurs un chiffre complètement faux. Donc, pour revenir sur Poutine, Poutine, il a été trop gourmand. Il n'a pas saisi l'opportunité en janvier-février, au moment où elle se présentait. Et au fil du temps, probablement grâce au lobby des Européens, des faucons au sein de son parti, des gens comme Lindsey Graham, des gens dans une certaine mesure comme Marco Rubio, peut-être Vance, on ne sait pas. Et aussi, n'oublions pas aussi de sa femme, Melania Trump, qui est slovénienne. Donc, toute personne qui vit dans l'ancien bloc de l'Est a une certaine opinion, une certaine vision de la Russie qui ne ressemble pas forcément à celle développée au sein de l'Europe occidentale ou des États-Unis. Et aussi parce que Trump veut son prix Nobel. Hein, son prix Nobel de la paix, c'est quand même un facteur très très important dans toutes les négociations qu'il essaye de mettre en place un peu partout dans le monde. Eh bien, Trump a fini par se rendre à l'opinion majoritaire que Poutine ne voulait pas vraiment la paix et qu'il fallait donc l'arrêter. D'où le ton finalement assez dur vis-à-vis de Poutine depuis quelques semaines. Mais maintenant qu'on a eu le sommet, tout ceci vient encore une fois de changer.
Et les deux autres messages ?
Les deux autres messages de son discours, c'est que l'Ukraine n'est pas si importante que ça, et que de toute façon, c'est une affaire intérieure russe. Hein. Il mentionne l'Ukraine, je ne sais plus très bien, mais au bout de 3 ou 4 minutes de son discours. Ce qui est normal, puisque pour Poutine, comme il nous l'annonce d'ailleurs dans son essai de juillet 2021, l'Ukraine, ça n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est sa stratégie depuis le début. C'est-à-dire qu'il arrêtera le conflit si ses souhaits sont exaucés. Et là, potentiellement, on peut rêver d'un nouvel âge d'or des relations russo-américaines, ce qui est évidemment un mensonge. Le troisième message est clair et lui aussi fort intéressant. L'Europe, pas l'Amérique de Trump, est l'ennemi. Poutine n'aime pas les Européens. Pour lui, ils sont riches, incapables d'investir dans leur défense. Ils vivent dans des démocraties factices. Leurs frontières sont poreuses parce qu'ils ne contrôlent pas leur immigration. Et tout ceci conduit à un déclin civilisationnel inévitable. Et la Russie, justement, représente l'espoir de la civilisation européenne. Pourtant, le pouvoir de nuisance des Européens sur le sujet ukrainien est bien réel. Il y a l'influence de Starmer, qui, en tant que Premier ministre britannique, ben, il a toujours une certaine influence sur les États-Unis. Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Il y a, comme on le sait, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui a une certaine influence sur Trump. Il y a les Polonais, il y a le président finlandais, dans une moindre mesure, même s'il voudrait que ça ne soit pas le cas, Emmanuel Macron. Et puis, n'oublions pas que contrairement aux mensonges proférés par le président américain, ce sont quand même les Européens qui, depuis 2023 à peu près, assurent le plus gros du financement militaire de l'Ukraine. Donc, le but de Poutine est clair, c'est, si on peut dire, faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire récupérer les quatre provinces de l'Est, à commencer par celle de Donetsk et de Luhansk, désarmer l'Ukraine, évidemment, trouver un moyen de se débarrasser de Zelensky, et puis, idéalement, casser l'alliance entre États-Unis et Europe, de façon à continuer à saper les fondations des démocraties européennes, quitte à susciter des troubles civils avec la guerre hybride qui est menée par la Russie sur l'Europe depuis déjà pas mal d'années et qui s'est évidemment accélérée depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ce qui pourrait amener, situation idéale pour Poutine, à amener au pouvoir des gens sympathiques finalement à la Russie, des sortes de Orban britanniques ou français.
Pouvez-vous nous rappeler les circonstances qui ont conduit à ce sommet ?
Bien sûr. Beaucoup de facteurs ont changé depuis quelques mois. D'abord, entre les sanctions économiques et les transformations de la Russie en économie de guerre, puisqu'à peu près, on estime qu'à peu près 45% de son économie est concentrée vraiment sur la guerre en ce moment, Poutine n'a jamais été aussi dépendant du pétrole. Or, voici ce qui s'est passé. On n'en parle pas beaucoup et c'est finalement absolument essentiel depuis le début de l'année 2025. Afin de relancer l'économie américaine et la réindustrialiser, comme il le prétend, puisque finalement c'est sa base électorale, hein, les régions rurales, mais surtout ce qu'on appelle les blue collar, donc les ouvriers industriels des États-Unis, Donald Trump a mené une offensive à de nombreux niveaux. Donc on a évidemment le chantage aux droits de douane, dont l'impact principal, c'est pas tellement la génération d'argent que permet une augmentation des droits de douane, c'est beaucoup plus les concessions qu'il obtient en menaçant d'augmentation de droits de douane, et qui se traduisent assez souvent, que ce soit avec le deal fait avec l'Europe, celui avec le Japon et puis sûrement beaucoup d'autres, par des investissements mirobolants, des investissements directs aux États-Unis qui se comptent dans les centaines et centaines et centaines de milliards de dollars. Hein. Il fait la même chose avec Taïwan, etc. Il y a évidemment la pression qu'il met sur la Banque centrale américaine, la Fed, de façon à réduire les taux d'intérêt. Là, on peut trouver d'ailleurs un parallèle assez intéressant entre Trump et le président de la Fed actuel et celui qu'on avait à l'époque de Reagan en 1980-82, qui lui aussi était en période de relance de l'économie américaine et qui mettait une pression pas possible sur Paul Volcker, qui était le patron de la Fed à l'époque, pour que lui aussi baisse les taux d'intérêt. Ensuite, il y a la baisse des impôts avec sa Big Beautiful Bill. Il y a les efforts de déréglementation. Là, on est par contre dans une logique, un fil républicain assez classique. Et puis, évidemment, il a relancé le forage aux États-Unis, mais surtout, hein, on parle beaucoup de ses voyages au Moyen-Orient, surtout il fait pression sur l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., de façon à ce qu'ils augmentent la production. Et le bilan, c'est que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, en gros, hein, le baril est tombé d'à peu près $80 à 65. C'est énorme. Hein, ça fait à peu près 20%. Et c'est ça qui compte. La guerre de la Russie est en réalité une variable du prix du pétrole. Plus le pétrole est haut, plus Poutine peut mener sa guerre, plus il est bas, plus il est dans une situation économique impossible. C'est finalement aussi simple que ça. Ensuite, il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est celui de l'Inde. Trump, ça aussi on n'en parle pas énormément, il a beaucoup mis de pression récemment sur Modi, le premier ministre indien, et l'a menacé d'augmentation de droits de douane, je ne sais plus très bien, jusqu'à 50%, etc. Mais il a conditionné ça à une application des sanctions. Donc ce qu'il a dit à Modi, c'est qu'il lui a dit d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Or, c'est là que ça devient très intéressant, les achats de l'Inde représente à peu près entre 38 et 40% des exportations de pétrole russe. Or, il y a eu, il y a une dizaine de jours, je crois que c'était le 7 ou le 8 août, Modi a eu un appel avec Poutine, et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit exactement, évidemment, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que Modi a essayé de lui expliquer sa situation. Il ne veut évidemment pas perdre la face en cédant face à Trump, mais il lui a probablement dit qu'il fallait que Poutine trouve une solution, parce que Modi, en fait, il est un peu coincé là-dessus. Et donc, comme par hasard, Poutine a accepté le sommet qui s'est tenu finalement à Anchorage, hein, après que les négociateurs aient hésité pendant très longtemps, pendant quelques jours sur l'endroit où il se tiendrait. Donc, Poutine a accepté, donc peu de temps finalement, après cet appel avec Modi.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Certains des éléments de la conversation entre Trump et Poutine ont fuité. Donc Poutine, apparemment, il aurait proposé, ce qui finalement n'est pas nouveau, il aurait proposé de geler les frontières dans le sud, vers Zaporizhia, en échange d'un retrait des Ukrainiens des provinces de Donetsk et de Luhansk. Rappelons-nous que dans le Donbass, les fameuses quatre provinces qui ont été annexées, je crois, le 21 février 2022, officiellement, en fait, ces provinces, les Russes les occupent seulement en partie. Donc, il aurait demandé qu'ils se retirent, et en échange, il gèlera les positions. Bon, donc c'est évidemment un début de négociation et rien d'autre, c'est pas une vraie proposition. Donc, Zelensky et une délégation européenne où il y aura visiblement beaucoup de monde, hein, puisque j'ai entendu, il y aura Merz, Meloni, Starmer, Macron, je crois qu'Alexander Stubb, le président finlandais, viendra aussi, que le secrétaire général de l'OTAN sera là aussi, etc., qui va en fait se déplace à Washington le lundi 18 août. En gros, clairement, les Européens savent qu'ils ne peuvent pas laisser Zelensky seul en présence de Trump, ils veulent être là. Parce que sinon, ça risque de ne pas bien se passer.
Et un pronostic ?
Il est probable que Trump modère un peu sa position, qu'il rebascule un peu dans le camp européen, et ceci jusqu'à la prochaine étape, C'est-à-dire que, bon, si j'étais Poutine, j'insisterais pour inviter Trump à Moscou, il lui donne une visite d'État, et après ça, Trump a de nouveau changé d'avis.
Donc, tout est possible.
Oui, mais encore une fois, n'oublions pas pourquoi nous sommes dans cette situation ridicule. Hein, une situation où des dizaines de chefs d'État, une guerre, sont finalement pendus au changement d'humeur d'un seul homme, le président américain. Ça, c'est le prix payé pour l'abdication de la souveraineté. C'est le prix payé pour avoir entretenu l'illusion, en Europe, de la pérennité d'un modèle social qui n'est pas soutenable. Le bilan de l'Europe depuis 30 ans, c'est le déclin du régalien, c'est l'atrophie des armées et des dépenses de défense, c'est un système social pléthorique, c'est le décrochage économique avec les États-Unis, ne l'oublions pas, ça aussi c'est absolument essentiel, c'est une dette qui explose, bon après c'est vrai que la dette américaine explose aussi, mais au moins là-bas l'économie fonctionne, et c'est aussi un bloc de 500 millions d'habitants, l'Europe, qui ne peut pas faire face à un pays, la Russie, de 150 millions d'habitants, qui est pourtant au bord de la ruine économique. Tout ça à cause de 30 ans de politique irréaliste. Comme je le dis souvent, ce n'est pas en rivalisant de flagornerie envers le président américain que l'Europe retrouvera sa souveraineté. C'est en réinvestissant dans son appareil de défense, en réindustrialisant, en revitalisant son économie. Et il est encore temps.